Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. De nouvelles élections pourraient se profiler en Israël. Le centriste Benny Gantz échoue à former un gouvernement de coalition. Il n'a notamment pas obtenu l'appui de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, vous l'entendrez.
Et puis nous irons ensuite en Corée du Sud, où le pouvoir a envoyé chez eux deux Nord-Coréens tollés, des associations de défense des droits humains.
Quelle recommandation fera le Conseil d'orientation des retraites à l'aube de la réforme? Son rapport est officialisé aujourd'hui. Les syndicats estiment qu'il diffuse de fausses informations. Leurs arguments à suivre.
Et puis, vous comprendrez pourquoi les personnels hospitaliers ne sont pas convaincus par le plan hôpital public du gouvernement. Il n'est pas assez ambitieux, disent-ils.
C'est la faute à l'État, un élément de langage trop récurrent pour être honnête. Voici l'analyse de Frédéric Seyss dans son billet politique. Nous le retrouvons après ce journal. Mais d'abord ce témoignage et ces images accablants. Nous avons rencontré un ancien membre de l'armée indienne qui a analysé des photos satellites au-dessus du Tibet et de la province du Xinjiang. Elles illustrent la façon dont les autorités chinoises traitent à la fois les Ouïghours et les Tibétains dans leurs régions respectives. Nathanaël Charbonnier, vous avez rencontré ce militaire à la retraite spécialisé dans le renseignement.
Le colonel Vinayat Bhatt a passé plus de 33 ans dans l'armée indienne et les images qu'il présente sur son ordinateur sont édifiantes. On y voit des camps dans lesquels seraient enfermés plus d'un million de Ouïghours. Vous pouvez voir que des clôtures ont été construites. Il s'agit de séparer les prisonniers, les parents de leurs enfants. Direction le Tibet maintenant, où l'on peut voir des postes de police chinois devant le lac sacré du Tibet où, par tradition, on vient honorer l'âme du Dalai Lama. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que la réincarnation de sa sainteté, le Dalai Lama, peut avoir lieu quand les moines se rendent près de ce lac pour méditer et chercher son âme. Mais la persécution ne s'arrêterait pas là. Déplacement de cimetières ouïghours, remplacement de monuments tibétains par des constructions à l'architecture chinoise. L'oppression, si l'on en croit les images, serait aussi culturelle.
Elles sont précieuses et elles montrent la brutalité et l'oppression que les Chinois imposent aux Ouïghours et aux Tibétains. Les Chinois veulent les éradiquer et c'est comme cela qu'ils procèdent.
Enfin, ces images pourraient devenir précieuses, notamment en cas de procès ou tout simplement encore pour les historiens.
Des images satellites à retrouver ce matin en une de notre site internet franceculture.fr. Je vous le disais en sommaire de ce journal, il semble toujours impossible de former un gouvernement en Israël. Benny Gantz, à la tête du parti centriste, avait jusqu'à hier soir pour trouver une coalition, mais il n'a pas réussi. Un mois après l'échec déjà de son rival, le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. Rien donc avec la droite, rien non plus avec les partis arabes. À chaque fois, c'est une troisième figure de la politique israélienne qui a refusé le jeu d'alliance. Le nationaliste Avigdor Lieberman, à la tête d'un groupe de 8 députés, Frédéric Mettezo.
Le faiseur de roi n'a donc adoubé personne. Avigdor Lieberman accuse Netanyahou et Gantz de ne pas avoir fait d'efforts l'un envers l'autre. Il leur reproche de faire passer leurs animosités personnelles avant l'intérêt général. Lieberman, né en URSS et qui parle hébreu avec un fort accent moldave, a toujours été constant sur ses positions. C'est un nationaliste de droite très anti-arabe, mais il est aussi un laïc qui ne supporte pas le prosélytisme des orthodoxes juifs qui gouvernent avec Netanyahou. Pour lui, les partis arabes et les partis religieux sont également antisionistes. Progressivement, Lieberman a élargi son socle, il n'est plus seulement le candidat des Russes. Depuis les dernières élections, il défendait un gouvernement d'union nationale entre Bleu Blanc et le Likoud. Il a prouvé que la rupture était consommée avec Benjamin Netanyahou, dont il a été le proche collaborateur puis ministre, avant de se fâcher très fort. Mais pourtant, Lieberman a choisi de ne pas choisir. Seul Lieberman sait ce que pense Lieberman, nous explique l'un de ses colistiers. À défaut d'avoir une tactique, il peut très bien avoir une stratégie. Netanyahou a 70 ans et aucun successeur évident à droite. Lieberman en a 61. Il peut encore s'envisager un avenir comme chef de file d'une droite sécuritaire et laïque.
Et avant une éventuelle nouvelle élection, la troisième en un an en Israël, le président israélien donne 3 semaines aux députés de la Knesset pour lui proposer des noms d'élus, des élus susceptibles de réussir là où les deux grands chefs de parti ont échoué. C'est un nouveau témoignage qui vient embarrasser Donald Trump. Lors de son audition publique devant le Congrès, Gordon Sutherland, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, a déclaré hier soir qu'il y avait bien eu un échange de bons procédés entre Washington et Kiev sur ordre du président américain. Cela s'inscrit toujours dans l'enquête en vue d'une procédure de destitution lancée par les démocrates à l'encontre de Donald Trump. Le Congrès américain encore et ce vote massif hier pour soutenir les droits humains à Hong Kong. Hier soir, la bourse de Hong Kong a ouvert en forte chute après ce vote. Cette initiative des parlementaires américains doit encore obtenir la signature de Donald Trump. Cela pourrait faire dérailler les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Partons maintenant dans la péninsule coréenne où Séoul a renvoyé chez eux deux marins nord-coréens. Accusés d'avoir tué leur capitaine et 15 membres de leur équipage, ils avaient demandé l'asile à la Corée du Sud. Pour la première fois depuis 66 ans, le pays a tout de même renvoyé ses transfuges vers le nord, un régime dictatorial où ils risquent la peine de mort. Les associations de défense des droits de l'homme crient au scandale. Récit signé Frédéric Ojardias.
C'est une histoire étrange. Ces deux pêcheurs nord-coréens sont accusés d'avoir assassiné sur leur tout petit bateau les 16 membres de leur équipage. Ils auraient voulu se venger des violences commises par leur capitaine. Ils ont ensuite mis le cap vers la Corée du Sud, où ils ont été arrêtés par la marine sud-coréenne. Ils ont demandé l'asile, mais après quelques jours d'interrogatoire, Séoul leur a refusé le statut de réfugiés et les a renvoyés au nord. Une décision qualifiée de honteuse par plusieurs associations qui accuse Séoul d'avoir bâclé l'enquête et de ne pas avoir organisé de procès. Phil Robertson, vice-directeur Asie de l'ONG Human Rights Watch.
Comment deux hommes ont réussi à en tuer 16 autres sur un bateau de pêche ne me semble pas très clair. À première vue, cela semble suspect. Nous nous attendions à une enquête beaucoup plus approfondie, en particulier parce que ces deux hommes, une fois en Corée du Nord, risquent la torture et pire. La Corée du Sud avait le devoir de leur offrir la justice. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a malheureusement abandonné tout principe en matière de droits de l'homme en Corée du Nord. Il semble être prêt à donner aux Nord-Coréens tout ce qu'il peut pour les convaincre de reprendre le dialogue.
Le gouvernement sud-coréen répond aux critiques en assurant n'avoir aucun doute sur la culpabilité des deux pêcheurs qui auraient reconnu les faits lors d'interrogatoires séparés. C'est la première fois depuis 1953 que la Corée du Sud expulse des transfuges qui demandent à rester.
C'était Frédéric Ojardias, correspondant de RFI à Séoul pour France Culture. Vers de nouvelles élections en Bolivie, la présidente par intérim Jeanine Agnès a envoyé hier un projet de loi au Parlement en ce sens pour donc une présidentielle et des législatives, un mois après le début des manifestations qui ont poussé Evo Morales à la démission. Depuis, ses partisans continuent de manifester dans le pays.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les syndicats de la SNCF et de la RATP sont invités ce matin à parler des retraites avec le gouvernement.
Oui, une réunion est prévue avec le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Certains syndicats, toutefois, n'iront pas à cette réunion, comme la CGT et Sudrail, qui estiment que l'exécutif ne les écoute pas. Ce jeudi également, les yeux vont se tourner vers le Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui doit rendre son rapport, dont les grandes lignes ont déjà été commentées dans les médias en début de semaine. Le déficit du système de retraite en France sera compris entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros en 2025. Or, il ne doit pas y avoir de déficit, voilà ce que dit l'exécutif. Cela préfigure des annonces du gouvernement, Annabelle Grelier.
Si le COR nous dit qu'il manque 8 à 10 milliards, on devra dire qu'il faut travailler plus longtemps. L'avertissement est d'Emmanuel Macron, c'était en octobre dernier. Pour installer le futur régime universel, il nous faut partir de zéro déficit. Celui-ci est de Jean-Paul Delevoye et c'était hier devant le Sénat. Voilà ce qu'on appelle une bonne grosse opération de communication pour Bernard Sterdignac, des économistes atterrés.
Le déficit est fabriqué pour faire peur, pour prendre des mesures d'austérité avant 2025, soit une baisse de 5% du niveau des retraites, soit un recul immédiat à 64 ans.
Pour Verven Angéli, porte-parole chez Solidaires, le rapport du COR n'est qu'un prétexte dans la stratégie du gouvernement.
C'est la réforme avant la réforme. C'est dégrader de façon importante la situation de la retraite de ceux et celles qui vont partir en retraite avant 2025 pour faire que, d'une certaine manière, le passage à la retraite à point, ce soit quelque chose d'indolore.
Un déficit organisé pour ATTAC, la Fédération Copernic, l'UNEF, la FSU et Force Ouvrière, alors que pour rééquilibrer les recettes, il suffirait d'augmenter les cotisations sociales. Catherine Perret de la CGT.
Il n'y a pas de déficit. Le déficit, il est organisé par le gouvernement et le COR sert de vecteur pour faire passer de fausses informations à l'opinion publique. Il n'y a pas péril en la demeure, notre système c'est toujours le meilleur au monde, c'est toujours celui qui est le plus sûr, le plus stable, et donc il suffit de se mettre autour d'une table et de regarder comment on peut augmenter les recettes, parce qu'on sait bien que demain il y aura plus de retraités, et que si on veut maintenir leurs droits, eh ben, il faut augmenter les financements.
Autour d'une table, tous les partenaires sociaux s'y retrouveront le 25 et 26 novembre prochain à Matignon, dernière tentative de déminage du gouvernement avant la grande grève du 5 décembre.
Autre grève déjà annoncée, celle des personnels hospitaliers à la fin du mois. Ils n'ont pas été convaincus hier par le plan annoncé par le gouvernement pour l'hôpital public. Reprise partielle de la dette par l'État, investissement d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans, prime annuelle de 800 euros pour les infirmiers et les aides-soignants en Île-de-France. Ce sont des mesurettes pour le collectif Interurgence qui appelle donc à 2 nouvelles journées de mobilisation. Son vice-président, l'aide-soignant Christophe Le Talec.
Le vieillissement de la population, les pathologies chroniques, tout ça s'installe durablement. Et ce qui est proposé par le ministère, ce sont déjà des choses qui existent à Nantes. On a un service de CAPS qui est adossé aux urgences. C'est un cabinet médical, en fait, qui est adossé aux urgences. Ça n'a pas fait diminuer le nombre d'entrées. On a un service de bed management, donc de gestion des lits. Ça n'a pas réglé le problème. Si on n'a pas de lits, nos collègues qui sont chargés de chercher des lits ne peuvent pas en trouver. Nos patients restent en file d'attente à les urgences. Donc on n'avance pas, on stagne dans les propositions qui sont faites. Et ça n'est pas fait pour calmer le jeu, parce que les retours que nous avons du terrain de la part de nos différents collègues dans les différents hôpitaux en France font qu'aujourd'hui la mobilisation va continuer à s'amplifier dans les jours qui viennent.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. La colère des hôteliers français, ils ne digèrent pas qu'Airbnb ait été choisi comme partenaire par le Comité international olympique pour les JO 2024. Hier, ils ont donc décidé de suspendre leur participation à l'organisation de ces Jeux olympiques à Paris. 9 et 10 ans de prison, ce sont les peines prononcées hier soir par la justice à l'encontre d'un couple ayant tenté de rejoindre la Syrie avec leurs 4 enfants entre 2015 et 2016. Il s'agit de Mohamed Amri et d'Anne Diana Klein, la sœur aînée de Fabien et Jean-Michel Klein, les voix francophones du groupe État islamique. Compte rendu de cette dernière audience avec Antoine Marette.
La procureure avait renvoyé dos à dos Mohamed Amri et Anne Diana Klein en requérant pour chacun 10 ans de prison ferme. Le tribunal fait lui la distinction entre les deux prévenus. Mohamed Amri, qui s'est enfermé selon la présidente dans le déni, voire même la provocation, écope de la peine maximale, 10 ans de prison ferme. Anne Diana Klein, qui a reconnu les faits et pris ses distances avec l'idéologie de l'État islamique, 9 ans ferme, à peine moins que son mari religieux. Son avocat, maître Martin Desrues, met en doute la logique de ce jugement.
Lorsque le tribunal fait le constat qu'un individu a changé et qu'il a pris la conscience de ce qui lui était reproché et qu'il a pris du recul, eh bien on retire 1 an aux réquisitions qui ont été faites. On considère que c'est trop peu. La peine qui a été prononcée ne tient pas compte de l'évolution de Madame Klein quant à l'engagement qui était le sien à l'époque des faits reprochés. La peine qui a été prononcée est plus élevée que la jurisprudence habituelle de cette chambre.
Les avocats d'Anne Diana Klein et de Mohamed Amri ont annoncé leur intention de faire appel de ce jugement.
Antoine Marette pour France Culture. En ce jeudi du mois de novembre, à 4 mois des élections municipales, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Les jeudis des municipales nous emmènent ce matin à Lille. Bonjour Stéphane Barbereau.
Bonjour.
Notre collègue à France Bleu Nord, basé à Lille. Martine Aubry en est la maire depuis 2001 et elle doit, d'ici Noël, Stéphane, annoncer sa candidature à un 4e mandat.
Elle avait pourtant promis que son mandat actuel serait le dernier, mais entre-temps, le paysage politique a changé et elle ne veut pas que La République En Marche s'empare du beffroi. Le parti d'Emmanuel Macron, arrivé en tête aux élections européennes, a choisi une femme qui connaît très bien Martine Aubry, Violette Spielboot, ancienne directrice de cabinet de la maire PS de Lille. Elle mène une campagne de terrain qui est très active, mais elle n'assume pas toujours son étiquette En Marche. Elle a déclaré récemment ne pas être macroniste avant de se raviser. Le duel Aubry-Spielboot, il est séduisant, évidemment, sur le papier, mais attention aux écologistes. Des alliés turbulents, aujourd'hui, de Martine Aubry, mais ils ont talonné la liste LREM aux européennes avec 22% des voix. Chez les Républicains, on a choisi l'ancien ministre du Logement, Marc-Philippe Daubresse, qui crée des divisions dans son camp à Lille, puisqu'il a dirigé une commune voisine chic, Lambersart, pendant 30 ans. L'inconnu, c'est la France Insoumise, 30% pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais le parti a divisé son score par 3 aux européennes. européenne. Et puis le député de Lille, Adrien Quatennens, n'a pas souhaité aller à la bataille. Enfin, il y a le FN, 18% aux dernières municipales, mais le leader historique de l'extrême droite dans la capitale des Flandres, Éric Dilly, a été écarté cette fois.
Voilà donc pour les candidats. La campagne maintenant, Stéphane, elle a débuté et un thème domine, c'est l'environnement.
Parce que Lille, c'est l'une des villes les plus polluées de France. On estime que 1700 personnes y meurent chaque année de la pollution à l'échelle de l'agglomération. Les autoroutes sont congestionnées matin et soir et on n'a pas construit de nouvelles lignes de tramway ou de métro depuis 20 ans. Et ça, c'est la compétence de la métropole. 1 200 000 habitants, c'est la quatrième de France. C'est l'autre enjeu, c'est municipal. Et il faudra composer avec l'homme fort de cette métropole, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, élu à Tourcoing, étiqueté aujourd'hui En Marche, mais toujours très populaire auprès des élus de droite.
Merci beaucoup Stéphane Barbereau, en direct de France Bleu Nord pour France Culture. La semaine prochaine, nous irons à Perpignan. Une perturbation pluvieuse arrive par l'Atlantique et la Méditerranée ce jeudi. Ailleurs, le temps oscillera entre nuages et éclaircies. Comptez 2 degrés ce matin à Lille et à Besançon, 4 à Paris, 7 à Nantes et à Lyon, 13 degrés à Marseille.